www.thebeatmaker.com.
Bonjour et bienvenue sur N.com, le podcast qui donne la parole aux professionnels des médias, du numérique, de l'innovation au Cameroun et en Afrique. Cet épisode est le troisième de la saison 2 et c'est un immense plaisir de vous retrouver. Je me nomme René Nkowa et aujourd'hui, nous allons parler de la gestion des projets éditoriaux avec Sinat Osaka. Sinat Osaka est journaliste depuis 12 ans. Elle a commencé son métier comme reporter à la télévision nationale béninoise. Cette professionnelle des médias a aujourd'hui un CV particulièrement fourni après avoir exercé dans les médias classiques et sur Internet. Parmi eux, on peut citer l'agence Bénin Press, la chaîne de télévision Africable ou le journal Le Dauphiné Libéré. On peut aussi mentionner son travail comme journaliste consultante pour l'Organisation internationale de la francophonie. Depuis 2 ans et demi, elle est professeure intervenante à l'École supérieure de journalisme de Lille en France. Mais ce qui nous intéresse dans le cadre de ce podcast est sa casquette de chargée des podcasts et de projets éditoriaux chez France Média Monde, la maison mère de RFI, France 24 et Monte Carlo Doualia. Bonjour Sinat Osaka, je te dis bienvenue et je te remercie d'avoir accepté mon invitation sur cet épisode du podcast N.com.
Salut René, je suis très heureuse de participer à ton podcast.
Sinat, tu es une journaliste jeune, on peut le dire, et qui malgré cela a déjà une expérience conséquente dans le monde des médias. En quelques mots, peux-tu nous dire qui est Sinat et quel est son parcours ?
Vaste question, je vais essayer d'être précise et concise. Donc je suis une journaliste béninoise, je suis arrivée en France en 2013 et après des études en journalisme au CFJ à Paris, je suis actuellement chef de projet éditorial et en charge des podcasts de RFI, France 24 et Monte Carlo Doualia. Voilà.
Et tu as fait des études de journalisme ?
Oui, c'est ça. Je fais des études de journalisme, comme je disais, au CFPJ. Donc, c'était une formation en alternance où, pendant 2 ans, j'alternais entre France Média Monde, donc l'entreprise qui m'emploie aujourd'hui, et puis mes cours.
J'ai vu sur ton profil sur LinkedIn, parce qu'après, il fallait un peu que je prépare cet entretien. Tu es aussi enseignante en journalisme ?
Oui, c'est vrai. Je donne des cours à l'École supérieure de journalisme de Lille depuis 3 ans maintenant et j'en suis ravie. C'est une expérience passionnante et aussi, on va dire, c'est un peu ma revanche parce que j'ai essayé de rentrer dans cette école et malheureusement, pour des raisons financières, je n'ai pas pu y entrer. Donc, de revenir en tant qu'enseignante, j'y prends beaucoup de plaisir, quoi.
Tu es chargée de projets éditoriaux et des podcasts chez Radio France Internationale. Concernant la gestion des projets éditoriaux, en quoi cela consiste concrètement ? Ou alors, qu'est-ce que ça implique en termes d'organisation, du travail et des objectifs à atteindre ?
C'est une question très intéressante puisque je pense qu'on n'est pas très nombreux à occuper ce poste-là dans les médias. En tout cas, à RFI et à France 24, je suis en tout cas la seule à occuper ce poste. Alors, j'ai la chance d'être à la direction des environnements numériques. Donc, c'est une direction transversale et qui, on va dire, travaille pour les 3 marques. Donc, RFI, France 24 et MCD. En termes de projets éditoriaux, on en a plusieurs. En tout cas, moi, j'en ai géré plusieurs. Qui évidemment ne s'étale pas sur la même durée. Pour vous donner un exemple très concret, il y a quelques mois, les médias de l'audiovisuel public, donc France Télévisions, Radio France, Arte, France Média Monde, se sont rassemblés pour créer l'atelier de l'audiovisuel public. Alors l'atelier de l'audiovisuel public est censé être un lieu de ressources pour octroyer des subventions à des créateurs afin qu'ils puissent réaliser des projets, en tout cas innovants, sur une thématique. Et du coup, j'ai eu à gérer ce projet-là pour France Média Monde. Donc, j'ai eu à représenter France Média Monde dans le cadre de ce collectif. Concrètement, ça consistait déjà à établir les règles, c'est-à-dire qu'il y a d'abord eu une décision de nos tutelles respectives de faire plus collaborer les chaînes de l'audiovisuel public dans un premier temps. Et donc ensuite, on va dire, les opérationnels se mettent autour de la table pour concrétiser cette vision, en tout cas cette envie. Une fois qu'elle est concrétisée, et honnêtement, j'ai eu la chance quand même de travailler avec des personnes qui sont hyper pertinents et très intelligents, en tout cas sur leur sujet de manière globale. Donc une fois qu'on a posé les cadres de l'atelier de l'audiovisuel public, il fallait lancer un appel à candidature qu'on a relayé au sein de tous nos médias. L'idée, c'était aussi de profiter en tout cas de la puissance des cinq chaînes de l'audiovisuel public. Il y a eu un appel à candidature, on a sélectionné cinq projets et pour chaque projet, nous étions en binôme par projet. Donc moi, j'ai collaboré avec France Télévisions Slash et avec Arte pour développer avec les producteurs sélectionnés, lauréats, les projets en question. Donc il y a tout un accompagnement aussi des producteurs lauréats autour du contenu des projets qui vont être développés, qui doivent plus ou moins correspondre aux ADN de chaque média. Donc c'était vraiment une aventure hyper intéressante qui part évidemment de l'idée, d'une vision, à la concrétisation, donc à la production en bonne et due forme de ces projets-là et à la diffusion sur tous nos médias. Et à ce moment-là, j'ai eu à mettre dans la boucle et à collaborer avec que ce soit les directions des environnements numériques de Radio France, d'Arte et aussi chez nous, parce que voilà, il faut administrativement déjà que tout soit clean. Donc c'est une cagnotte commune hein, qui a été mise en place. Et puis il faut aussi délivrer, c'est-à-dire il fallait aussi coordonner avec notre service des réseaux sociaux, par exemple, pour que les productions soient véritablement mises en ligne. Et puis derrière, il fallait aussi être à l'écoute des producteurs pour faire le suivi. Donc voilà, c'était vraiment un projet hyper intéressant que j'ai eu la chance de suivre, un projet éditorial que j'ai eu la chance de suivre de A à Z. Il y en a d'autres, celui sur lequel je suis depuis 6 ans aussi, c'est le Challenge App Afrique, qui est un projet éditorial avant tout. C'est un concours, mais c'est aussi un projet éditorial dans le sens où il est porté par une émission de RFI et cette année par une chronique de France 24 qui vont faire des émissions sur une thématique particulière. Donc du coup, moi, mon travail, c'est évidemment de m'assurer, déjà de choisir la thématique, de m'assurer qu'on respecte le cahier de charge qui a été, on va dire, plus ou moins voulu, le rétro-planning, hein, je dirais, qui a été plus ou moins décidé entre nous. Et aussi de travailler avec des partenaires, de travailler avec des acteurs qui sont sur le continent africain pour ce qui est du Challenge App Afrique, parce qu'on s'appuie sur des incubateurs. Nous, on est un média. Et puis, il y a des incubateurs dont le travail, dont l'expertise, c'est d'accompagner les porteurs de projets. Donc, on s'appuie également sur eux. Et puis, nous, évidemment, on leur offre une visibilité. Donc, il y a beaucoup d'interviews qui sont faites de ces lauréats-là et de plusieurs participants, en tout cas, du Challenge App Afrique. Donc, voilà deux exemples, en tout cas, de projets éditoriaux que j'ai la chance de gérer, de coordonner, de prendre en charge au sein de RFI et France 24.
Il est important de signaler aux auditeurs de ce podcast que nous enregistrons là, dehors, sous le vent, sous le froid, pas loin de la circulation. Donc, du coup, si vous entendez des sons d'ambiance, c'est parce qu'on est dans cet environnement-là. L'un des projets sur lesquels tu as travaillé est le concours RFI Challenge App Afrique, dont tu viens de parler, qui vise à développer des solutions mobiles ou web innovantes sur le continent africain. Pour avoir, j'imagine, suivi des dizaines de projets au fil des années, parce que là, tu dis, ça fait 6 ans que tu t'en occupes, sur quel point devraient, à ton avis, se focaliser les concepteurs et les entrepreneurs du continent pour porter l'innovation ?
Alors, c'est la particularité aussi du concours, hein. C'est vraiment pouvoir servir à la communauté. Ça peut paraître banal comme ça, mais aujourd'hui, il y a un boom de l'écosystème numérique en Afrique. Et puis, il y a vraiment cette tendance que moi, je trouve un peu dommage de créer des outils qui ne servent pas à la communauté. Donc, je dirais que ce qui est important, c'est d'être à l'écoute des besoins de sa communauté, d'être vraiment à l'écoute de ce qui pourrait améliorer hein, concrètement la vie de ses concitoyens et de pouvoir développer des outils qui correspondent à ces besoins-là. Pour moi, c'est la seule clé, en quelque sorte, pour arriver à faire des outils, pour arriver à développer des futures licornes, comme on dit aujourd'hui. À partir du moment où on est sûr de répondre à un besoin de la communauté et de faire quelque chose pour ces derniers, oui, il y a des fortes chances de réussir. Évidemment, ce n'est pas garanti parce qu'il y a encore des problèmes de connexion Internet complexe, le coût de la connexion Internet qui reste très compliqué. On a aussi des problèmes de formation, de ressources humaines. Évidemment, il y a des challenges, mais je pense que tout part de comment est-ce qu'on arrive à répondre à un besoin de sa communauté. I used to think if I couldn't find hope, I should just let it all go. I used to think if I couldn't make dreams come true, I should just let them all go. When life seems
Ce podcast vous est proposé par www.koa.com. Dreams can be driving, can be a distraction. Dreams can change out of nowhere. Life is so short, even when hope's elusive. Hard times dissolve in air.
Je suis toujours avec Sinatou Saka et maintenant nous allons parler de podcast. Tu travailles pour une entreprise qui a une grosse présence sur Internet et sur les réseaux sociaux, mais qui à la base est une radio. Quels sont les bénéfices que le podcast apporte à un média radio qui est déjà bien installé?
Alors, je suis très contente qu'on parle de ce sujet-là, puisque ça occupe une bonne partie de ma journée, hein, puisque je suis aussi en charge de la coordination, en tout cas au sein de la direction des environnements numériques. Donc je suis quand même en charge de la diffusion des podcasts. Donc je suis très contente qu'on puisse aborder ce sujet dans un podcast. Alors pour nous, le podcast c'est quelque chose de naturel. Ça peut paraître un truc nouveau, mais ça n'a jamais été nouveau en fait pour RFI. Puisque de fait, si on considère que le podcast c'est de l'audio en ligne, ce qui est ma définition personnelle, même s'il y a deux types de podcasts, le podcast de rattrapage et le podcast original, qui sont des contenus spécifiquement créés pour les internets. J'ai envie de dire qu'on a toujours fait du podcast en fait, et que voilà, à partir du moment où on avait un site internet, on a toujours fait du podcast, et qu'effectivement les gens ont toujours eu la capacité de réécouter nos émissions. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, depuis 2017, je dirais, nous avons commencé à développer donc, des projets de podcasts natifs dont le but, en fait, vraiment pour nous, c'est à la fois d'aller toucher de nouveaux publics en explorant de nouvelles thématiques, de fait. Donc d'aller toucher des publics qui ne vont pas nous écouter naturellement à l'antenne broadcast. Donc ça, c'est quand même un intérêt très important. Un deuxième intérêt, je dirais, c'est de permettre aussi, moi je le dis souvent dans les conférences, c'est de renouveler l'écriture radiophonique. Je pense que c'est important de permettre aux journalistes de l'antenne d'avoir un espace où ils peuvent venir crier et ne plus avoir des contraintes de temps, ne plus avoir des limites inhérentes à l'antenne broadcast. Donc on se veut aussi être un laboratoire pour permettre aux journalistes radio de pouvoir développer leur créativité, développer des formats sonores longs sur des sujets nouveaux, sur des sujets peut-être pas assez traités aussi à l'antenne, je pense qu'il faut le dire. Et puis être présent sur des plateformes où on n'est pas attendu en fait, c'est ça en fait le plus important, être présent sur des plateformes où on n'est pas attendu, ou en tout cas dans des espaces où on n'est pas attendu et où il faut qu'on soit parce qu'on a une rigueur, on a une légitimité, on a des talents et il y a énormément de choses à raconter, quoi.
De ton point de vue, est-ce que le podcast peut être un axe de développement envisagé dans l'immédiat pour les radios africaines ? Je parle des radios d'Afrique francophone. Quand on sait les autres défis que ces radios doivent relever ?
Il y aura toujours de nombreux défis, hein. Ça c'est sûr. Je fais partie de ceux qui pensent qu'il ne faut pas attendre et qu'il faut se lancer. Donc oui, à mon avis, aujourd'hui, une radio, peu importe où elle se situe, devrait à minima avoir un site où on peut réécouter ses émissions. Donc au-delà même de développer des formats originaux, peut-être qu'elle pourrait déjà permettre à des gens de pouvoir réécouter simplement leur émission sur l'antenne et de pouvoir ainsi toucher bien plus de personnes qu'elle ne touche aujourd'hui. Je veux dire, même en termes de géographie, quoi. On a beaucoup de radios qui sont connues localement et qui ont beaucoup de contenu de qualité qui mériterait d'être entendu au-delà de leurs frontières.
Et depuis quelques années, RFI produit régulièrement des podcasts natifs. Je pense notamment au podcast Afrofuturisme qui a été publié en 2019. Maintenant, raconte-nous, Sinatou, comment s'organise la fabrication et la diffusion d'un podcast natif au sein d'une radio ? Est-ce que ça demande les mêmes ressources que les émissions diffusées à l'antenne ? Et ici, je tiens à rappeler aux auditeurs qu'un podcast natif est conçu pour être diffusé sur Internet.
Oui, alors, peut-être qu'on peut déjà commencer à dire qu'un podcast natif, en tout cas de ma conception personnelle, ce n'est pas un sous-produit. C'est vraiment un contenu qui mérite même des fois un peu plus hein, qu'un podcast classique. Donc voilà, c'est quand même un contenu innovant et dans l'innovation, il y a forcément un temps de travail qui est beaucoup plus important parce qu'on veut mieux faire. Donc, nous, on ne fait pas des podcasts pour faire des podcasts. On fait des podcasts parce qu'on veut être différent, parce qu'on veut, vraiment pouvoir apporter quelque chose de nouveau. Donc, voilà. Et puis, évidemment, vu quand même la notoriété de notre antenne, on ne peut pas se permettre de sortir des choses qui soit pas très intéressante, donc il y a quand même une exigence naturelle quand on est RFI. Mais pour répondre à ta question concrètement, alors il y a différentes façons de produire du podcast, en tout cas chez nous. On reçoit des propositions de l'intérieur ou de l'extérieur, de journalistes qui souhaitent développer des podcasts natifs, évidemment c'est bien de préciser. Il y a une étude qui est faite de ces propositions-là parce qu'on est simplement dans l'incapacité de tout produire. Donc il y a une étude qui est faite de ces propositions-là sur différents critères, que ce soit quels sont les moyens dont on dispose, quel est aussi l'intérêt pour nous de raconter cette histoire-là. Pour vous donner un exemple très concret, on est un média international, donc nos histoires doivent être ouvertes sur le monde, donc c'est quand même notre ADN, donc c'est important de nous proposer des choses, ou en tout cas de proposer à nos publics, comme on le fait déjà à l'antenne, des choses qui permettent en tout cas de réfléchir et d'être ouvertes sur le monde. Donc voilà, il y a des propositions qu'on analyse, qu'on étudie en fonction de différents critères, des moyens, de la thématique, de la personne qui le propose aussi, c'est important. En fonction de notre décision ou non de produire ces podcasts-là, il y a évidemment la question que moi, personnellement, je me pose systématiquement, c'est à qui on va s'adresser à travers ce podcast. Donc, c'est quelque chose de capital à se poser. Et s'il y en a qui nous écoutent, qui souhaitent développer des podcasts, posez-vous toujours cette question-là de à qui vous voulez vous adresser avec ce podcast-là. Et puis, il y a tout un planning de production. En général, moi, j'essaye quand même de ne pas sortir, on va dire, 10 000 podcasts le même jour. C'est une manière de parler, mais il y a un planning qui est mis en place pour pouvoir échelonner plus ou moins la sortie des podcasts. Il y a une grosse période de production qui est faite avec le ou la journaliste, plus le réalisateur. Pour moi, le réalisateur, c'est hyper important. J'ai tendance à dire que la réalisation, c'est une écriture supplémentaire, c'est une écriture sonore supplémentaire, donc c'est clairement important. Donc il y a un travail d'écriture de la journaliste qui est en collaboratif avec, on va dire, trois personnes, dont moi, dont le coordinateur éditorial, dont le coordinateur de la production. Donc on relit les scripts, on rentre en studio, on accompagne le journaliste à trouver son ton qui correspond au sujet qu'il a envie de développer. En parallèle, évidemment, le réalisateur essaye de trouver une ambiance pour mettre en valeur le propos. Nous, on a tendance à faire aussi des avant-premières d'écoute pour avoir des retours de gens en interne autour de nos projets. C'est assez important pour nous. Et puis, il y a toute la période qui est quand même très importante. Voilà, on reste un média de service public, hein, donc les moyens ne sont pas illimités, mais la période la plus importante dont je parlais, c'est la période de diffusion et de communication. Il faut savoir que sortir un podcast, c'est quand même, je dirais, 60% de diffusion et de com. Donc c'est quand même un long processus de mise en ligne, mais aussi d'embarquer tous les services de marketing, de réseaux sociaux, et aussi de pouvoir informer tous nos contacts au sein des plateformes pour une mise en avant pertinente. Et puis, il y a une dernière étape où moi, j'interviens aussi, qui est de regarder les chiffres, qui est de comprendre les chiffres, qui est de comprendre où nous sommes écoutés, qui est de comprendre qui nous écoute, quelles sont leurs attentes, quels sont les épisodes qui ont le mieux fonctionné pour pouvoir faire mieux et pour pouvoir toujours satisfaire ce public-là qui a faim de connaissances, quoi.
Merci beaucoup, Sinatou, pour ta disponibilité et pour avoir accepté de répondre à ces quelques questions sur le podcast.com. Je te souhaite une bonne continuation dans l'accomplissement de tes nombreuses missions.
Merci beaucoup, René. C'était un plaisir et j'espère que les voitures, le bruit des voitures, du vent n'ont pas trop dérangé l'écoute. Je reste disponible pour échanger avec chacun d'entre vous sur mes réseaux sociaux.
Merci, Sinatou.
À très vite.
Comme nous l'avons entendu tout au long de cet entretien, la gestion des projets éditoriaux au sein d'un grand groupe média implique de savoir gérer la participation d'un nombre important d'intervenants. Ceci étant dit, nous retenons aussi que l'innovation est un gage de pérennité pour les organisations médiatiques, où qu'elles soient, et notamment sur le continent africain. Nous notons aussi que le podcasting est un filon que les médias gagneraient à explorer. Cet épisode de N.com est maintenant terminé. Je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous invite à continuer cette conversation sur LinkedIn où le podcast N.com est présent. Il est aussi disponible sur les principales plateformes d'écoute. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel entretien avec une actrice ou un acteur des médias, du numérique, de l'innovation au Cameroun et en Afrique. Ciao !